Extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, non seulement pour louer Dieu, mais aussi pour pouvoir partager un message autour de la parole de Dieu. Et cette semaine, sur notre groupe Facebook, j'avais partagé l'idée qu'on allait faire quelque chose de spécial, une chose particulière qu'on allait faire aujourd'hui. Et je pense que mon punch a été volé avec les petites coupes qu'on vous a demandé de récupérer à l'entrée. Mais faites comme si vous étiez surpris. Ce matin, on va prendre la Sainte-Seine ensemble. Amen! Wouh! Merci pour votre spontanéité. Après plus d'un an et demi où on a été privé de la prendre à cause de la pandémie, il m'a semblé important aujourd'hui qu'on prenne le temps de s'arrêter et qu'on prenne ce repas tous ensemble en tant qu'Église. Et combien sont heureux de prendre la Sainte-Seine ce matin? Amen! Juste, je referai ce rappel à la fin. Donc, pas la peine de prendre vos coupes. Là, je vous expliquerai un peu comment ça se passe parce que tout est déjà prêt. Donc, on a un premier petit plastique à enlever pour pouvoir accéder au pain. Puis le deuxième, faudra vraiment l'enlever tout doucement, c'est pour pouvoir accéder au vin. Donc, enlevez-le tout doucement un petit peu loin de vous. Pas pour éclabousser la personne qui est en face de vous, mais pas aussi pour vous éclabousser non plus. Donc, juste faites attention à ça. Mais je ferai un rappel tout à l'heure et aussi un rappel qu'il faudra bien jeter à votre sortie ces petits gobelets. Jésus a donné deux ordonnances à l'Église. La première, c'est de baptiser les nouveaux croyants. Et la deuxième, c'est de prendre le pain et le vin en tant qu'Église. Autrement dit, Jésus a demandé à l'Église qu'on prenne un bain et qu'on mange et boive. Jésus aimait manger. On le voit souvent dans les récits de la Bible, en Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous disent un peu toute l'histoire de Jésus. Et on voit en fait dans toutes ces histoires-là que Jésus était souvent à table. Jésus était souvent à table avec des gens qu'il aimait. Il prenait le temps, il s'asseyait avec des gens et il mangeait avec eux. Il prenait beaucoup de temps à manger, puis à parler, puis à développer une relation. Jésus aimait la bouffe. Pour moi-même, Jésus, il avait un petit peu de sang français. Parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, on se met à table, il est 11h30 à peu près. On commence par l'apéro, puis après on commence à sortir, on mange, on parle, on jase, et puis après on sort les plateaux de fromage, on jase encore. Et puis vient le dessert, il est déjà 16h, 16h30, on prend le dessert, et puis on jase encore. Et finalement on se dit, ah bah oui, il est 18h30, prends l'apéro. Donc on reprend l'apéro, et puis on reprend l'apéro, et puis on jase, et puis on commande des pizzas. Et finalement on sort de la soirée, et il est 23h30, on a passé 12 heures à table. Jésus aimait prendre du temps à table. Jésus aimait les repas en communauté. Et c'est donc pas surprenant que Jésus nous ait demandé de prendre la Sainte-Seine, de prendre un repas tous ensemble. Mais la Sainte-Seine, c'est plus que prendre du pain et du vin. La Sainte-Seine, c'est un appel à porter notre attention, notre regard sur quatre choses. Et ça va être mon titre ce matin, les quatre appels de la Sainte-Seine. Et on va lire le célèbre texte de 1 Corinthiens 11, et on va commencer à partir du verset 23. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit ça, qui écrit à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 11, au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Et on va continuer notre lecture plus tard dans notre message. Et avant de commencer d'entrer dans ma prédication, là, je voulais juste faire un rappel un peu historique. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire, mais moi j'aime l'histoire. Donc vous n'avez pas le choix d'aimer l'histoire. La Sainte-Seine a été instaurée par Jésus. Ce n'est pas une création de l'Église, ça a vraiment été instauré par Jésus. Et en fait, à ce moment-là, il s'agit du dernier repas que Jésus est en train de prendre avec ses disciples. Quelques heures seulement avant d'aller mourir à la croix. Et à ce moment-là, en fait, Jésus et ses disciples célébrer une fête juive qu'on connaît tous sous le nom de la Pâque. À la Pâque, les Juifs se rassemblaient ensemble, prenaient un repas ensemble pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Et pour savoir ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, il faut remonter en arrière et arriver au livre d'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Et en Exode, on voit que les Juifs, le peuple juif, était sous l'esclavage, était esclave du Pharaon, était esclave des Égyptiens. Pendant 400 ans, ils ont été esclaves. Et à un moment donné, Dieu a dit, je vais envoyer mon serviteur Moïse pour qu'il aille délivrer mon peuple. Alors Moïse se présente devant le Pharaon et dit, laisse partir le peuple de Dieu, laisse partir mon peuple. Et Pharaon dit, non, non, il s'agit de mon peuple. Hors de question que je laisse partir. Alors Dieu décida d'envoyer des plaies en Égypte pour montrer au Pharaon qu'il ne s'agit pas de son peuple, mais qu'il s'agit du peuple de Dieu. Mais malgré tout, malgré toutes les plaies, le Pharaon reste sur ses positions et dit non, je ne laisserai pas partir. Jusqu'à la dernière plaie. Jusqu'à ce moment où Dieu va prévenir Moïse et lui dire, je vais envoyer une plaie. Ce soir, un ange va passer dans toute l'Égypte pour enlever tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Mais pour éviter que l'ange ne fasse du mal à mon peuple, au peuple juif, je demande à ce que toutes les familles prennent un agneau innocent et que de cet agneau, ils prennent le sang et en mettent sur tout le contour de la porte. Comme ça, l'ange, lorsqu'il passera, il verra qu'un prix a été payé pour cette famille. Il verra que le sang a déjà coulé pour cette famille et il ne fera rien. Et le lendemain, le pharaon est dévasté et il laisse partir son peuple, enfin son peuple, le peuple de Dieu. Il laisse partir le peuple de Dieu et c'est cet événement-là que les Juifs célèbrent à la Pâque, la délivrance de Dieu de l'esclavage, de leur esclavage. Et nous savons aujourd'hui que ce sang qui a été répandu autour des portes, c'était le signe annonciateur de ce que Jésus allait faire pour nous à la croix. Il allait payer le prix pour nous à la croix. Dans l'histoire de l'Église, on a appelé ce moment, la Sainte Cène, par plusieurs noms. En 1 Corinthiens 11 au verset 20, on voit qu'on appelle ça le repas du Seigneur. En Actes 2, 42, on parle de la fraction du pain, qui était une expression courante en fait à l'époque pour dire on prend un repas en commun. En 1 Corinthiens 10 et au verset 16, on voit le mot communion, qui est traduit du grec koinonia. Et aussi, peut-être que vous le connaissez tous, ou plutôt, par le mot de eucharistie, qui vient du grec eucharistéo, traduit par rendre grâce, ça veut dire rendre grâce. C'est ce que Jésus a fait, il a rendu grâce le soir, il a rendu grâce pour le pain, pour le vin, il a eucharistéo. On l'a même appelé la fête de l'amour. L'Église primitive a appelé ça la fête de l'amour car on célébrait l'amour de Dieu pour son Église. Et la Sainte Cène a été le premier repas qu'on a mangé sur la Lune. Vous l'ignorez peut-être, mais le 20 juillet 1969, tu peux mettre la diapo 5, je ne sais pas si elle s'affiche, l'un des coéquipiers de Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, avait prévu dans son sac de quoi faire la communion. Et après qu'ils se soient amusés à faire des sauts là dans l'espace, ils se sont enfin posés. Et puis au moment du repos, Edwin a sorti le pain et le vin pour partager la communion ensemble, pour prendre la première communion sur la Lune. Ça a marqué l'histoire, même si on ne le sait pas trop là, on a préféré ne pas en parler, mais ça fait partie de l'histoire. Et aujourd'hui, on s'apprête à prendre la première Sainte Cène de l'église Nouvelle Vie Châteauguay. Vous faites partie de l'histoire maintenant. Voilà un bref rappel historique de la Sainte Cène. Je pense que je ne vous ai pas trop écœuré comme certains profs à l'école, peut-être. Mais maintenant qu'on a parlé du contexte historique, il faut qu'on comprenne le contexte de notre passage qu'on a lu tout à l'heure. Parce qu'en comprenant ce contexte, on va comprendre le premier appel de la Sainte Cène. Et le premier appel de la Sainte Cène, c'est un appel à regarder autour de soi. Paul écrivait à l'église de Corinthe. On voit, si vous voulez lire dans le chapitre 11 et même avant, on voit que dans l'église, il se passait des choses qui n'avait aucun sens pour Paul. À l'époque, pour la Sainte Cène, on prenait ce repas de communion. En fait, on arrivait avec chacun avec son pique-nique. Et puis, en même temps qu'on partageait chacun son pique-nique, on prenait la communion tous ensemble. C'était vraiment un moment de partage. Et à l'église de Corinthe, on avait des riches qui arrivaient avec leur sandwich au caviar, avec leur vin millésimé, avec leur champagne, avec leur tomahawk de première qualité. Et ils arrivaient tôt, eux, parce qu'ils n'avaient pas trop de job par rapport aux plus pauvres, par rapport aux esclaves qui, eux, arrivaient tard à l'événement. Ils arrivaient en retard parce qu'ils étaient dans la journée de travail. Et eux, ils arrivaient avec le fond d'un paquet de chips ramollis, avec un vin un petit peu qui brûle la gorge, avec du pain rassis. Et au lieu de partager tout ce repas, les riches prenaient tout pour eux. Les riches profitaient que les pauvres ne soient pas là pour se goinfrer, pour boire, pour s'enivrer, pour prendre tout le meilleur plat. Ce qui fait que les pauvres, quand ils arrivaient pour prendre la communion ensemble, il n'y avait non seulement plus rien, mais en plus de ça, les riches étaient ivres, ils étaient un petit peu joyeux, et ça crée la division, ça crée la jalousie. Parce qu'au lieu que la Sainte Cène amène une unité, au lieu que la Sainte Cène les amène à partager, à se servir les uns les autres, les riches venaient pour se servir eux-mêmes. Ils venaient aux tables pour prendre la Sainte Cène uniquement pour eux. Et au lieu que la Sainte Cène soit un moment d'amour, ils en ont fait un moment égoïste. Et alors que j'étudiais ce texte, alors que j'étudiais le contexte de ce passage-là pendant toute la semaine, je me suis juste posé cette question. Sommes-nous si différents aujourd'hui ? En mettant en place la Sainte Cène, Jésus nous appelait au partage, Jésus nous appelait au service mutuel au sein de l'Église, à passer des moments fraternels. Or, aujourd'hui, on vient à l'Église, on s'assoit et on prend tout pour nous. La louange est centrée sur moi. C'est mon temps. La prédication a intérêt à être centrée sur moi. Ça a intérêt à me plaire, parce que sinon je ne donne pas ma dîme, je ne suis même pas sûr de donner ma dîme, parce que c'est mon argent. Tout est centré sur moi, je me fais servir par les autres. Il y a une étude qui est sortie en 2019 qui explique que 29% des jeunes aux États-Unis qui ont quitté leur église ont quitté ce lieu-là parce qu'ils ne se sentaient pas connectés avec les gens autour d'eux. Parce que chaque personne était là pour soi-même et les jeunes ne se sentaient pas connectés avec leur communauté. 29% des jeunes ont quitté leur église à cause de ça. Il y a Tom S. Rainer, c'est un livre que j'ai lu dernièrement. Il a fait une autopsie en fait, des églises qui venaient de mourir, des églises mortes. Et c'était très intéressant. Et il arrivait à cette conclusion en disant « Une église ne peut pas survivre à long terme lorsque les membres se concentrent sur leur propre référence, mon style de musique, la durée et l'ordre des services de culte que je souhaite, la couleur et la conception des bâtiments et des salles que je souhaite, mes activités, mes programmes, mes besoins, moi, moi, moi. » Aujourd'hui, nous consommons l'Église. Nous ne vivons plus l'Église. Et si nous trouvons que l'Église est malade, si nous trouvons qu'elle ne rayonne pas comme elle devrait, si nous trouvons qu'elle n'est pas le sel qu'elle devrait être, l'exemple qu'elle devrait être dans la société, c'est parce que de plus en plus, nous sommes amenés à devenir des spectateurs au lieu de devenir des acteurs, au lieu de devenir des membres actifs de l'équipe. Même pour la Sainte Cène, même pour ce moment-là, moi pendant des années, on m'a dit... Pendant la Sainte Cène, c'est ton moment à toi. Là, tu te concentres que sur toi, tu fermes les yeux et c'est que ce moment sur toi, sur toi, sur toi. Et c'est vrai, il y a une part de vérité en tout ça. On va le voir tout à l'heure. Mais à force de trop se centrer sur toi, sur toi, sur toi, on oublie à regarder autour de soi. On oublie à regarder la personne qui est autour de nous. On oublie la communauté. On oublie que prendre la Sainte Cène, c'est avoir la vision des personnes qui nous entourent. Et ce qui me rend malgré tout heureux, c'est que je sais que certaines personnes l'ont compris dans cette église. Je suis émerveillé par le service de plusieurs d'entre vous. Je suis émerveillé de voir des personnes se lever plus tôt pour venir servir l'église. Des gens qui viennent à tous les dimanches se présenter et dire « Je suis là pour servir. » Je suis émerveillé de cette équipe, de l'équipe de bénévoles que nous avons. Même je sais qu'il y a certaines personnes où je sais que la semaine a été dure, je sais que la semaine a été intense, je sais que même ils vivent des épreuves, des grosses difficultés. Et pourtant, c'est les premiers à faire ce premier pas et à dire « je suis là pour servir ». Peu importe à quel point je souffre, peu importe à quel point c'est difficile, je suis appelé à servir. Et honnêtement, à toutes les équipes qui font partie là, de nos bénévoles, vous êtes mes héros. Et je suis extrêmement reconnaissant envers Dieu de pouvoir servir avec vous. Et est-ce qu'on pourrait juste donner une main d'applaudissement à tous nos bénévoles qui s'impliquent dimanche après dimanche avec persévérance? Merci pour qui vous êtes. Cette vision communautaire de la Sainte-Seine, c'est aussi la raison pour laquelle je crois que la Sainte-Seine doit surtout aussi se prendre en présentiel. C'est vrai qu'on a pris la Sainte-Seine en vidéo à cause de la pandémie, et c'est une solution temporaire, et c'est correct. Mais je crois que la Sainte-Seine doit se prendre en communauté, parce qu'en communauté, ensemble, il s'agit d'une proclamation d'amour. Il s'agit d'une proclamation du service que nous nous devons les uns aux autres. Nous sommes là pour servir les uns les autres. Et ce point-là, pour moi, c'est l'un des points les plus importants qui me fait dire que l'Église en ligne, ce n'est pas ce qui doit être la norme. L'Église en présentiel doit être la norme. Nous devons célébrer la communauté et l'amour que nous avons les uns pour les autres à chaque dimanche et autant qu'on peut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Prendre la Sainte-Seine, c'est un appel à regarder autour de soi, mais c'est aussi un appel à regarder en arrière. Paul continue et il cite Jésus à ce moment-là, à partir au verset 25, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Écoutez-moi bien. Je ne veux pas vous offusquer. Je nous mets tous dans le même bocal. Nous sommes des poissons rouges. On oublie fréquemment toujours les mêmes choses. On oublie toujours les mêmes choses. On est là, oh ouais, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est fidèle. Puis la vie reprend. Ah oh mince, mais il est où Dieu? Mince, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Comme un poisson rouge qui tourne dans son bocal. Mince, je doute de sa présence, je doute de sa fidélité, je doute qu'il est... Mais oui, Dieu est là, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu... Et la vie continue. Oh. Mince, oui Dieu, puis j'ai un peu la flemme de prier, puis j'ai la flemme de lire ma Bible, et puis ah mais oui, mais c'est vrai, je dois lire ma... Est-ce que vous avez compris? On tourne en rond, on oublie toujours les mêmes choses. C'est pour ça que Jésus nous dit en souvenir, parce qu'il sait qu'on va oublier, donc en souvenir, chaque fois que vous en mangez, en souvenir de moi. Et ici dans le grec, il y a une particularité. Quand Jésus dit « en souvenir », il y a une particularité et il s'agit réellement de savourer la pensée. Il s'agit de savourer avec affection, avec joie. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Moi, l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était des grands repas de famille, encore la bouffe, hein, des grands repas de famille du côté de ma mère, là, et puis on passait la journée ensemble à table. Et puis moi, je chillais avec mes cousins, on passait du fun ensemble toute la journée. Et puis ma grand-mère préparait des repas polonais, des spécialités polonaises. Et quand je repense à la viande qu'elle nous servait, désolé pour les végétariens, les véganes, mais je savoure juste avec un énorme sourire ce qu'on mangeait. Tellement c'était bon. Jésus nous appelle à regarder la croix avec la même saveur, avec ce souvenir, avec affection. Parce qu'en regardant la croix, il ne faut pas juste voir ça en mode « Ah, c'est horrible, c'est affreux, ça me gêne, ça me dérange, c'est un peu bizarre la croix. » Non, non, Jésus nous appelle à regarder la croix, à contempler sa fidélité, son amour, sa passion, sa grâce pour nous avec affection, avec joie. Et peut-être que pour certains... Ça peut être dur de se projeter en arrière il y a plus de 2000 ans pour regarder à la croix parce que c'est un peu lointain, j'ai un peu du mal à me représenter. Mais quand Jésus dit « en souvenir de moi », ce n'est pas uniquement à ce qu'il a fait à la croix il y a plus de 2000 ans. C'est aussi en souvenir de ce qu'il a fait dans ta vie il y a quelques années en te sauvant. Et moi, cette semaine, il y a eu un moment où... où Dieu m'a fait grâce de me souvenir de ce qu'il a fait pour ma vie. Tu peux mettre la diapo 10. Cette semaine, le 31 août, j'ai reçu un message de mon téléphone. Moi, j'aime bien Google. Et Google m'a envoyé une notification me disant, hey, regardez la photo que vous avez prise il y a 7 ans. Et quand je l'ai ouvert, mon téléphone, juste cette photo, ça peut vous sembler banal. On voit juste quelqu'un qui se mord la langue, en plus en conduisant, c'est un peu bizarre. Mais sur cette photo-là est le symbole du premier pas de foi que Dieu me demandait de faire. Cette photo-là est le symbole de ma vie nouvelle en Christ. Parce que ce jour-là, c'est le symbole où Dieu m'a amené vers un changement, m'a amené vers la repentance, m'a amené à une nouvelle vie. Et j'ai réalisé, alors je me suis souvenu avec saveur, il y a 7 ans, ça fait 7 ans que je suis en marche avec Dieu et je savoure cette pensée. Et en savourant cette pensée, j'ai réalisé, tu peux mettre la diapo suivante, qu'il s'est passé tellement de choses en 7 ans. Quand vous regardez la photo qui est en haut à gauche, en 7 ans, ça fait 6 ans que je suis en relation avec Julie. C'est une de nos premières photos. En 7 ans, on a eu 5 ans de mariage. Dans ces 7 années-là, il y en a 3 que nous avons passées au Québec où j'ai passé à me former à l'ITF. Et c'est la photo qu'on voit en haut à droite, si vous nous voyez un petit peu décalé, parce qu'on est dans l'avion. En 7 ans, j'en ai passé 2 à travailler pour l'Église. Dans ces 7 années, ça fait déjà 2 mois que je suis pasteur ici. Et je savourais cette pensée-là en voyant toutes ces photos. Mais ce qu'on voit sur cette photo, peut-être toute la joie, toute la grâce, toutes les bonnes nouvelles, on ne voit pas derrière aussi toutes les difficultés par lesquelles je suis passé derrière ces 7 années. Des combats, des doutes, des pleurs, des doutes sur ma foi, des doutes sur Dieu, des doutes sur mon appel, des combats face à une addiction à la pornographie que j'avais mis des années avant d'enfin que Dieu m'en débarrasse. Des moments où je retombais et puis je me relevais sans cesse. Des difficultés aussi dans nos débuts de fréquentation avec Julie. On ne voit pas tout ça sur les photos, mais mine de rien, même si je sais qu'il y a eu ces combats-là, même si je sais que ça a été dur, j'ai savouré chaque souvenir parce que dans ces 7 années-là, j'ai réalisé une chose, c'est que Dieu a été fidèle. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je savoure la pensée que Dieu est fidèle et que Dieu restera fidèle. Et c'est peut-être ton moment ce matin à réaliser, à t'arrêter et à te souvenir, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Que ce soit dans les moments durs ou compliqués, où est-ce que j'ai vu sa fidélité? C'est ça aussi prendre la Sainte-Seine, c'est se rappeler de la fidélité de Dieu pour nos vies, parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui nous aime, il est un Dieu qui ne nous abandonne pas, que ce soit dans les bons moments comme dans les pires moments, il reste ce Dieu présent avec nous parce qu'il est fidèle. Comme il a été fidèle à la croix, il reste fidèle aujourd'hui pour ta vie, pour tes défis et même pour tes moments de joie. Il est fidèle. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Prendre la Sainte-Seine, c'est un appel à regarder autour de nous, à regarder derrière nous ce qui a été fait, mais aussi à regarder devant nous. Paul continue et on reprend le verset 26 où est-ce qu'il dit: En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On l'a chanté tout à l'heure dans le chant aux gloires à son nom, qu'un jour on sera revêtu de blanc. Et on se tiendra devant lui. Soit Jésus revient, soit on se présentera avant devant lui. Mais dans tous les cas, on sera avec lui. Et prendre la Sainte Seine là, c'est aussi cette déclaration que peu importe l'avenir, je sais où je vais terminer. Je sais où je vais être. Je vais être en sa présence éternellement. Et c'est ça, prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine tous les jours. Enfin, tous les jours, non? Mais on prendra la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce moment où on sera enfin devant lui. Et quand on sera devant lui, il n'y aura plus besoin de Sainte Seine. Il n'y aura plus besoin de se remémorer parce qu'on sera face à lui. Ce ne sera plus un petit fond de jus de raisin et du pain. Ce sera les noces de l'agneau. Ce sera un banquet. Ce sera un banquet. Il y aura du pain, il y aura du vin, il y aura la vie. Il y aura tellement de choses. Et le plus extraordinaire, c'est que Jésus sera assis avec nous à table. Nous allons être face à Jésus, devant Jésus. Et prendre la Sainte Seine, c'est dire et proclamer qu'un jour, on sera avec toi. Un jour, on sera devant toi. Il n'y aura plus besoin d'essayer de se souvenir parce que tu seras devant nous, on te verra. Et c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Jésus nous dit aussi en Matthieu, et au chapitre 26 et au verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. » Avec vous, dans le royaume de mon Père. Jésus revient. Et la Sainte Cène, c'est aussi un appel à réussir à regarder au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos doutes qu'on vit actuellement, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos détresses pour dire ce qui arrive dans l'éternité, ça va être extraordinaire. C'est aussi ce moment-là où on se pose et on dit « Merci Jésus, parce que je sais qu'un jour, peu importe ce que je vis actuellement, un jour je serai devant toi. » Amen. Le dernier appel de la Sainte Cène, c'est l'appel à regarder en soi. Paul termine un petit peu en nous disant au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Celui qui prend la Sainte Cène indignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis revenu à l'église, après m'en être éloigné pendant plusieurs années, je n'osais pas reprendre la Sainte Cène. Parce que je me sentais indigne. Je me sentais mauvais. Je me sentais pécheur. J'avais peur de prendre la Sainte Cène indignement parce que je me sentais juste indigne. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que j'avais tort, mais j'ai réalisé aussi que beaucoup ont cette pensée-là de dire « Non, moi, j'ose pas prendre la Sainte Cène parce que je ne me sens pas digne de la prendre, je me sens pécheur de la prendre. » Mais Paul n'a pas dit que ceux qui se sentent indignes ne prennent pas la Sainte Cène. Non, 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 non. Paul a dit « Ne prenez pas la Sainte Cène de façon indigne. » Il y a une nuance ici. Et c'est important de la faire, cette nuance. C'est important de préciser cette nuance. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais digne, par mes œuvres, de prendre la Sainte Cène. Tu ne seras jamais digne, par tes œuvres, du sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes juste dignes, si on peut dire dignes entre guillemets, nous pouvons être dignes de prendre la Sainte Cène uniquement parce que Dieu nous appelle à le faire, parce que Dieu nous appelle à prendre ce repas par grâce, uniquement par grâce. Et ici, prendre indignement la Sainte Cène, il faut vraiment le comprendre dans le contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les Corinthiens qui se goinfraient pour eux. Parce que prendre indignement la Sainte Cène, ça a vraiment la signification de prendre ce repas sans considérer le sacrifice de Jésus. C'est prendre ce repas pour moi, sans réaliser tout ce qui prend place autour de moi aussi. C'est prendre la Sainte Cène indignement, c'est la prendre de façon égoïste, sans vouloir changer, sans vouloir faire d'efforts. C'est ça la prendre indignement. Mais en plus de ne pas la prendre indignement, Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes. Paul nous demande, quand on prend la Sainte Cène, de faire une introspection. Et l'introspection, voilà comment je pourrais un peu l'expliquer. Quand on fait un examen, un bilan médical annuel, on se présente devant notre médecin et puis il nous fait un check-up. Prise de sang, radio, on prend la taille, on prend le poids, on prend tout ce qu'il faut pour juste être sûr qu'on n'ait pas de problème, pour juste être sûr qu'on ne soit pas malade, pour être sûr que tout va bien. Et c'est la même chose quand Paul nous appelle à nous examiner nous-mêmes. C'est de venir devant Dieu et dire, « Ok Seigneur, c'est le moment de mon bilan santé spirituelle. Je me présente devant toi et on va faire mon bilan de santé ensemble. » C'est dire, « Viens sonder mon cœur et montre-moi où j'ai péché. Montre-moi où j'agis mal, montre-moi mes mauvaises réflexions, montre-moi mes mauvais fondements, montre-moi même les idoles qui sont sur mon cœur. » L'introspection doit nous amener ensuite à la repentance. Parce que c'est bien beau d'identifier le problème. Si on ne règle pas, le problème reste là. Le médecin, s'il trouve un problème et qu'il ne te donne pas des médicaments, le problème reste là et ça engendre un autre problème. Maintenant, la repentance, c'est reconnaître son péché. Je le reconnais, il est là. C'est demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je sais que j'ai ce péché-là. Et le mot péché n'est pas à la mode en ce moment, mais il faut l'appeler comme tel, le péché, et s'en éloigner. Parce que juste dire, hey, ouais, je veux ton pardon, j'accepte ton pardon, merci pour ton pardon, par contre, ne me demande pas de changer. Moi, je veux continuer à faire ma vie. Je veux bien ton pardon, je veux bien que tu me pardonnes, mais il est hors de question que je change. C'est là où est-ce que si on prend la Sainte Cène de façon indigne, c'est lorsqu'on refuse de changer. Et tout à l'heure, lorsqu'on va prendre la Sainte Cène ensemble, lorsqu'on va prendre ce repas de communion ensemble, si tu sens qu'il y a un péché sur ta vie, je t'invite à le confesser. Je t'invite à le reconnaître devant Dieu, à lui demander pardon, mais aussi à lui demander « Éloigne ça loin de moi. Éloigne ça loin de moi. » Mais aussi, quand on prendra la Sainte Cène tout à l'heure, ce n'est pas uniquement pour se centrer uniquement sur le péché, mais s'il y a une victoire dernièrement sur ta vie, c'est le moment où il faut le célébrer. C'est le moment où quand on s'examine aussi, dire « Waouh, dernièrement j'ai vécu une victoire sur telle situation. » Et c'est le moment de remercier Dieu pour sa grâce. Quand on prend la Sainte Cène, c'est le moment de dire « Hey, merci Seigneur pour ta grâce sur cette situation-là parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais me délivrer. » Les versets que j'ai cités tout à l'heure, c'est aussi la raison pour laquelle dans l'histoire de l'Église et jusqu'à aujourd'hui, nous considérons qu'il faut être chrétien, qu'il faut être né de nouveau pour pouvoir prendre la Sainte Cène. Autrement dit, il faut être converti, il faut avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. Tout simplement parce que la Sainte Cène, c'est le symbole de notre foi. La Sainte Cène, prendre la Sainte Cène, c'est le symbole de notre salut. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de mystique. Et ce n'est pas réservé à ceux qui sont supérieurs par rapport aux autres. Non, non. La Sainte Cène, c'est pour ceux qui ont un jour plié le genou devant Jésus et qui ont dit « Jésus, sois le maître de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. » Donc s'il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus ce matin, je ne veux pas vous offusquer. Mais je vous demanderai juste de respecter notre foi dans les Écritures, dans ce que Paul dit, dans ce que Jésus a demandé et dans le symbole qu'on peut mettre dans la Sainte Cène. Et en fait, voilà comment je peux l'illustrer. C'est comme si moi, je voulais aller voter pour les élections canadiennes. Mais je ne pourrais pas parce que je n'ai pas la nationalité canadienne. Donc on va me demander, non, désolé. Abstiens-toi de voter parce que tu n'as pas cette nationalité-là. Mais si je veux avoir la nationalité canadienne, il y a des procédures qui existent. Et c'est exactement la même chose pour la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est un rappel que Jésus a donné sa vie, son corps, son sang, pour te donner la possibilité de venir à lui. La Sainte Cène, c'est un rappel que Jésus a tout donné pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses enfin avoir une vie nouvelle, pour que tu puisses enfin te débarrasser de tes addictions, pour qu'enfin tu puisses avoir un nouvel espoir, pour que tu puisses être séparé de ton péché et de la mort qui attend avec le péché. Jésus a tout donné pour que tu puisses avoir la paix. Pour que tu puisses avoir une paix, pour que tout puisse être effacé, pour que toutes tes erreurs que tu as pu commettre dans le passé puissent être effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Ne passe pas à côté de cette vérité ce matin. Jésus t'aime. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais ce matin, s'il faut que ça tape dans ton cœur, je vais retaper. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Comme il nous a aimés, comme Jésus nous a sauvés, il veut te sauver aussi. Donc ce matin, n'attends pas. Et viens à lui parce qu'il a les bras ouvert pour toi. Et je vais arriver à la conclusion de mon message. Je vais demander à Stéphane et à Germine de venir me rejoindre. Et je vais vous inviter aussi à récupérer la coupe que vous avez récupérée à l'entrée. Pour des raisons sanitaires, on a commandé ces gobelets déjà tout faits. Mais juste, je précise, s'il vous plaît, ne laissez pas les éléments présentés de la sorte comme ça, ne laissez pas la nouveauté conduire ces moments. Mais laissons la présence de Dieu et son esprit conduire ces instants. Les éléments ne doivent pas conduire les moments où est-ce qu'on se tient devant Dieu. C'est uniquement son esprit, c'est uniquement sa présence, c'est uniquement son amour. Et vous pouvez enlever le premier film, le film transparent, pour pouvoir avoir un accès au pain. Ceci, c'est un symbole. Ceci, c'est le symbole de Christ. Ce n'est pas le corps de Christ à proprement dit, on est d'accord. Hein. Ce n'est pas son corps, ça. Hein. C'est juste un symbole. Le symbole apporte peu. Enfin, l'image, ça, ceci, là, ça importe peu à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a des personnes, que j'ai entendu des histoires, par exemple, où ils ne pouvaient pas prendre de vin ou de jus de raisin parce que c'est trop cher pour eux, et ils prennent la Sainte-Seine avec du lait de coco. J'ai entendu aussi un pasteur qu'il a marié un couple, et puis ce couple-là voulait prendre la Sainte-Seine ensemble pour célébrer leur union, mais ils n'avaient rien pour prendre la Sainte-Seine, alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris une chips et la limonade. Parce que c'est un symbole. C'est le symbole que le Christ, le Jésus, a eu le corps qui a été brisé pour toi, pour moi, pour nos fautes. Et avant de manger, en souvenir de ce que Christ a accompli, je t'invite à regarder à ta droite, la personne qui est à ta droite. Je t'invite à regarder la personne qui est à ta gauche, les personnes qui sont autour de toi, tout ce qui prend place ici. Tu fais partie de ce corps. Tu fais partie de ce corps. Nous sommes appelés à servir les personnes qui sont dans cette salle et puis les gens qui vont aussi rentrer dans ce lieu. Est-ce qu'ils vont, ça va être là pour la première fois, est-ce qu'ils vont pouvoir venir ici? Nous sommes appelés à manger ce corps, à manger pardon, ce pain, en souvenir du corps de Christ, et en souvenir que nous sommes sauvés, nous avons été appelés à servir l'Église. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi, qu'il a tout donné pour toi, pour qu'en retour tu puisses tout donner pour lui. Et Jésus, merci pour ton corps qui a été déchiré à la croix. Merci Jésus parce que par ton corps, nous avons l'unité ce matin. Merci d'avoir accepté de payer le prix pour que nous puissions nous rassembler en tant qu'Église. Et Seigneur, de la même façon que tu as donné ton corps pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous appeler dans ta famille, nous voulons nous donner en retour pour ton Église. Et nous mangeons ce pain en souvenir de ce que tu as fait pour nous, mais en souvenir aussi que nous voulons nous offrir à toi et nous offrir à l'Église. Mangeons ensemble. Souvenir de ce que Jésus a fait. Je vous invite maintenant à soulever tout doucement l'upercule qui est hermétique pour éviter de vous en mettre partout. Ce jus de raisin, c'est le symbole du sang de Jésus qui a coulé pour nos fautes. Et tout à l'heure, alors que je vous ai demandé de regarder autour de vous avant de prendre le pain pour réaliser que nous prenons ce pain ensemble parce que nous faisons partie de l'Église ensemble, que nous sommes appelés à servir l'Église ensemble, là, je vais vous demander quelque chose de différent. Je vais vous demander de vous arrêter et de faire cette introspection, de vous tenir devant Dieu et dire « Sonde-moi, ô Dieu, tu connais mon cœur mieux que personne. » Montre-moi si j'ai des péchés à confesser, des fautes à confesser. Montre-moi si j'ai des victoires à célébrer. Que chacun s'examine soi-même, on prend le temps. Que chacun s'examine soi-même en silence, en demandant sans de moi, ô Dieu. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour les victoires que tu as remportées sur nos vies, sur nos fautes, sur nos erreurs. Et on veut prendre ce juste matin en souvenir de ce sang précieux qui a coulé pour nous, en souvenir que ce sang nous rend plus blanc que neige devant toi. En souvenir que c'est grâce à ton sang qu'on peut venir à tes pieds, parce que nous sommes pardonnés. Et c'est en prenant son sang, ce jus de raisin, Seigneur, qu'on va aussi se souvenir qu'un jour, on se tiendra devant toi. Qu'un jour, on sera devant toi et que nous boirons un nouveau vin ensemble, en ta présence, face à toi. Merci Jésus. Buvons ensemble. Et avant de conclure ces moments et vous laisser après à la sortie jeter ces gobelets dans la poubelle qui est prévue pour ça, j'ai juste vous inviter à vous lever ce matin. On va conclure ces moments dans la louange, on va conclure ces moments dans l'adoration.